Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Dans quelques jours, le peuple américain choisira son ou sa nouvelle présidente pour les 4 prochaines années. On dit de cette campagne, scrutée dans ses moindres détails, qu'elle est la plus serrée de l'histoire. Alors si l'issue du scrutin reste incertaine, ses répercussions sur le reste du monde sont bien réelles. Comment ces élections vont influencer la scène internationale et comment les États-Unis se positionnent-ils face au reste du monde? Pour éclairer ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Thierry de Montbrial. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, un des principaux think tanks européens spécialisés dans les politiques internationales. Et en 2024, vous avez publié avec l'IFRI et comme chaque année, Ramsès, qui est un ouvrage de référence qui analyse les grandes tendances de l'actualité internationale. Et dans l'édition de cette année, plusieurs chapitres sont bien entendu consacrés aux États-Unis, un sujet qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. Alors Thierry de Montbrial, ça fait plus de 50 ans que vous décortiquez les relations internationales. J'ai calculé, ça fait à peu près 12 campagnes électorales américaines. Comment a évolué la posture de ce pays vis-à-vis du reste du monde depuis toutes ces années? Si on pouvait dessiner une tendance globale.
Alors tout d'abord, je ne suis pas certain que ce soit l'élection la plus incertaine 15 jours avant. Et il y a eu souvent des coups de théâtre, des résultats tout à fait inattendus. Mais celle-ci est effectivement très serrée et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le monde entier s'y intéresse de très près. Le résultat n'aura peut-être moins d'influence sur la suite qu'on ne le croit généralement. Ce qui est très tranché, vous me demandez de comparer, pas seulement peut-être les élections, mais un peu ce que représentent aujourd'hui les États-Unis par rapport au reste du monde. La première chose, c'est que les États-Unis sont devenus un pays profondément divisé. Moi-même, par exemple, j'ai fait mon doctorat aux États-Unis
à
une ère glorieuse. C'était Berkeley en période 67-68. C'était le point de départ même de ce qu'on appelait les événements de 68. Ça a été, à cette époque-là, un lieu absolument extraordinaire sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan sociologique. Mais les États-Unis, malgré la guerre du Vietnam, qui était en cours à l'époque, et malgré toutes sortes de divisions, de disputes, de différends, on va dire, intérieurs, étaient profondément unis. C'est-à-dire que la sociologie globale des États-Unis était claire, et entre les républicains et les démocrates, il n'y avait pas tellement, finalement, de différences. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, ça vient de loin, les démocrates, comme les républicains, sont profondément divisés entre eux. Et on voit apparaître l'équivalent d'une extrême droite, selon la terminologie européenne et particulièrement française, une extrême droite du côté républicain et une extrême gauche du côté, socialiste, du côté démocrate. Ça, c'est très nouveau. Et ça prend aussi des tournures extrêmement désagréable parfois. Donc, certains s'interrogent sur l'unité même, sur l'avenir de l'unité et de la Constitution américaine. Alors, la Constitution américaine, c'est un peu le pilier de l'unité américaine, voyez-vous. Et puis, dernière remarque sur cette première question, c'est qu'il n'est pas du tout impossible que le 6 novembre, on se retrouve sans résultat clair. Il est tout à fait possible, comme cela est déjà arrivé, qu'il faille plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant que nous ne sachions vraiment qui sera le prochain président des États-Unis. Il se pourrait que ce soit tranché par la Cour suprême, par exemple, et comme ça a déjà été le cas. Et donc, il peut y avoir aussi des contestations. Si Kamala Harris est élue dans un mouchoir de poche, on peut faire confiance à Trump et à ses amis pour contester, voyez-vous. Donc, faut s'attendre à pas mal de chahuts.
Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler de politique étrangère des États-Unis. Avant qu'on s'entende bien, la géopolitique, les questions internationales, dans cette campagne présidentielle aux États-Unis, c'est un sujet qui passe quand même au second plan. C'est pas le sujet qui intéresse le plus les électeurs.
Ça a toujours été comme ça.
Oui.
Mais regardez, en France ou n'importe où, c'est pareil. Donc, la politique étrangère vient après, sauf que Le monde aussi, et je dis l'Amérique change profondément, mais le monde change aussi profondément. Et pour les États-Unis, le problème numéro un, ça n'est certainement pas l'Ukraine, et ça n'est probablement pas non plus la question israélienne, c'est évidemment la Chine. Et que depuis 2001, c'est-à-dire les attentats de Washington et de New York, les tours, les États-Unis, qui depuis cette époque-là veulent mettre la Chine, la montée de la Chine en tête de leurs priorités, ont été constamment distraits, si je puis employer ce mot, par des conflits extérieurs. Et je crois que ce soit les démocrates et les républicains sur ce point, je crois qu'ils en ont un petit peu assez de se disperser, si vous voulez. Ça, c'est peut-être un point très important.
Mais pour revenir aux questions de politique intérieure, politique extérieure, est-ce que les deux ne sont pas de plus en plus liés? Joe Biden le disait lors de son premier discours de politique étrangère en février 2021, il n'y a plus de frontière nette entre la politique étrangère et la politique intérieure. Chaque action que nous entreprenons à l'étranger doit être menée en gardant à l'esprit les familles de travailleurs américains. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là?
Cette question des rapports entre la politique intérieure et la politique extérieure est une question éternelle, en réalité. Et Tocqueville en débattait déjà. On appelait à l'époque, on parlait des affaires de l'intérieur, des affaires de l'extérieur. Ce qui est nouveau actuellement, c'est que, bien entendu, les intérêts économiques, etc., ont toujours étroitement liés aux questions de sécurité, aux questions de politique internationale en général. Ce qui est nouveau, c'est en raison de l'évolution technologique, la prédominance du numérique, les réseaux sociaux, etc., tout est immédiatement intérieur, très facilement intérieur. Bon, le moindre conflit qui se passe dans un recoin autrefois totalement caché et ignoré du monde peut devenir un problème intérieur à cause du jeu des passions. Bon, la question palestinienne, israélo-palestinienne, enflamme, a toujours été très sensible, bien entendu, mais aujourd'hui, elle devient un problème de politique intérieure un peu partout, en raison, bien entendu, des minorités agissantes, et de plus en plus d'ailleurs arabes, dans les différents pays occidentaux. Mais aussi parce que nous sommes presque au spectacle, les uns et les autres, devant les atrocités qui se déroulent dans cette région. Alors je pense que c'est ça que Biden veut dire. Et l'une des grandes complexifications de la politique étrangère aux États-Unis, mais également ailleurs, c'est précisément cette interférence permanente avec les idéologies. Il joue un rôle absolument énorme, les passions, les émotions. Et ça, c'est aussi une vulnérabilité pour les démocraties, parce que les pays démocratiques peuvent être amenés à prendre au jour le jour des décisions qui ne sont pas forcément très raisonnées par rapport à la longue durée.
Alors, le numéro de Ramsès de cette année s'intitule « Entre puissance et impuissance ». Commençons par la puissance. Les États-Unis, aujourd'hui, on peut affirmer que c'est toujours la première puissance mondiale, en termes militaires, économiques.
Les États-Unis ont deux caractéristiques qui continuent de les singulariser. La première, c'est que le tissu sociétal, on va dire, des États-Unis favorise aujourd'hui autant, sinon plus que jamais, l'innovation technologique. Si vous voulez, un phénomène comme Elon Musk, ou la Silicon Valley plus généralement, illustre ça parfaitement. Or, M. Musk est un Sud-Africain. C'est donc quelqu'un qui est né en dehors des États-Unis. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Il a réussi à développer, y compris la fameuse Tesla sur la voiture électrique, etc., des concepts qu'il a réussi à transformer en réalité, dans lesquels personne ne croyait. Et c'est tout à fait extraordinaire. Bon, c'est un exemple emblématique, mais les États-Unis, c'est ça. Ça continue d'être cette capacité-là. La deuxième caractéristique qui singularise les États-Unis, c'est que ils ont toujours eu des périodes plus refermées sur eux-mêmes, des périodes plus ouvertes, des périodes très interventionnistes dans le monde entier, des périodes plus isolationnistes. Mais En tout cas, depuis la Première Guerre mondiale, il y a une caractéristique qui demeure, c'est la volonté, c'est lié à la technologie, d'être la première puissance militaire du monde. Et même, je peux être plus précis, ils veulent être plus forts militairement dans les industries, dans les technologies militaires, plus forts que le reste du monde supposé coalisé contre eux, y compris leurs alliés. Bon. Et ça, évidemment, c'est destiné à rester.
Alors là, vous parlez de puissance militaire, de puissance économique, entrepreneuriale.
Les deux sont liés. Les deux sont liés. Pourquoi est-ce que la France est de plus en plus à la traîne ? Parce que depuis des décennies, nous ne faisons pas les réformes économiques que nous devrions faire. Donc, nous ne pouvons pas avoir de véritable puissance militaire. Nous pouvons l'avoir en miniature, mais nous ne pouvons pas l'avoir en grand, par exemple.
Et je voulais parler aussi de puissance démocratique. Qu'est-ce qu'on peut dire de son rôle, de sa capacité à diffuser la démocratie dans le monde ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'elle est en train de s'éroder. Alors, on peut penser le blocage des institutions, l'assaut du Capitole. Aujourd'hui, la force démocratique des États-Unis est-elle en train de s'éroder ?
Alors, il y a deux aspects dans cette question. L'une, c'est que, et c'est exactement cela que nous reproche une partie du monde, nous, je mets les États-Unis, mais les Occidentaux dans le même panier, et les Européens, par conséquent, nous avons cette habitude qui nous vient des siècles coloniaux, depuis les temps modernes, c'est que nous voulons faire la leçon au reste du monde. Bon. Et les États-Unis ont, M. Biden par exemple l'a dit plusieurs fois très explicitement, veulent être le fer de lance d'une croisade pour la démocratie. Bien. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus inacceptable, d'autant plus qu'en effet, la démocratie, c'est un sujet en soi, multiplie ses manifestations de dysfonctionnement, voire de faiblesse. Bon. Le deuxième point, mais ça c'est un point quasi philosophique, c'est que quand on prétend propager des valeurs, je crois que la première chose à faire, c'est de se concentrer sur soi-même. La meilleure façon de propager des valeurs, c'est d'être exemplaire. Si vous passez votre temps à faire la leçon aux autres en n'étant pas exemplaire vous-même, c'est un petit peu embêtant. Et là, je pense aussi à la France en particulier. Donc, la question, elle est très importante parce que quand vous réfléchissez à la politique étrangère, finalement, il y a deux grandes sortes de politiques étrangères partout. Il y a deux grands types de politiques étrangères. L'une est basée justement sur les valeurs. Bon. Mais très rapidement, pour les raisons que je viens de dire, vous dérapez sur l'idéologie. Mmh. Et à ce moment-là, l'idéologie devient le pilier de cette politique étrangère. Ou alors, vous décidez d'être réaliste. Et sur ce mot réaliste, c'est le deuxième type de politique étrangère, c'est le réaliste. Et là, il y a une très grande ambiguïté, parce que beaucoup de gens, quand on dit réaliste, entendent « réel politique ». C'est-à-dire quelque chose de cynique, de brutal, etc. Non. Pour quelqu'un comme moi, et j'ai très bien connu jusqu'à quasiment sa mort Kissinger, dont j'étais relativement proche, dont j'ai connu pendant 50 ans en réalité, et c'était quelqu'un qui était réaliste, mais qui n'était absolument pas cynique. Réaliste, c'est avoir une compréhension claire de la situation, voir la réalité telle qu'elle est, et une capacité sur laquelle on ne met pas suffisamment l'accent, ce qu'on appelle l'empathie. Hein. L'empathie n'est pas la sympathie. Si je cherche à comprendre mon adversaire, si j'ai un adversaire, je cherche à le comprendre, c'est-à-dire je cherche à comprendre comment il fonctionne, comment son cerveau fonctionne, quelles sont véritablement ses préoccupations, ses intérêts, etc. Eh bien, si je le cherche ça, pour que ça marche, il faut que j'ai cette qualité particulière qui s'appelle la qualité d'empathie. Et qu'on confond trop souvent avec des prises de position idéologiques ou autres. Moi, je suis extrêmement frappé depuis plusieurs années, d'ailleurs, que les rares personnes dans un pays comme la France qui cherchent à comprendre la Russie un peu de l'intérieur et en cherchant à comprendre comment ils raisonnent et pourquoi, etc., sont immédiatement taxés de pro-Poutine. C'est absurde. C'est pas comprendre la réalité, c'est le point de départ de l'autre politique étrangère. Oui. Voilà, il y a deux grands types de politique étrangère. Je pense que si Trump est élu, on sera plutôt dans le réalisme brouillon, dans son cas. Si Kamala Harris est élue, elle ne connaît rien, a priori, de la politique étrangère, mais elle s'inspirera des attitudes démocrates qui sont plutôt teintées de questions de principe et d'idéologie.
Et donc cette capacité d'empathie, en tout cas, n'est pas représentée aujourd'hui, que ce soit du camp...
Je ne vois pas actuellement dans les milieux, il y a des gens remarquables aux États-Unis qui s'occupent de politique étrangère, parce que il y a beaucoup d'experts, etc. Mais sur la vision globale, je ne crois pas en tout cas que ce souci empathique soit dominant. Et c'est encore une fois la raison pour laquelle Kissinger, même post-mortem, continue d'avoir beaucoup d'ennemis.
Alors, vous avez parlé il y a quelques instants de la Chine. La Chine, c'est le sujet qui semble quand même faire consensus dans les deux camps, que ce soit le camp démocrate ou le camp républicain. On en parle peut-être un peu moins en Europe aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est vraiment le rival qui obsède.
Oui, alors ça devient de plus en plus explicite, mais encore une fois, ça vient de très loin. Je peux vous dire encore cette anecdote. En 2001, quand les rapports de force étaient totalement différents d'aujourd'hui, le directeur de la CIA... Une tradition, c'est que le directeur de la CIA fait un rapport au nouveau président, ou même s'il est réélu, pour dire quelles sont les priorités, à son sens, en matière de sécurité au sens large. Le directeur de la CIA de l'époque, s'appelait George Tenet, avait fait un rapport, donc destiné à George W. Bush, dans lequel il mettait très nettement la Chine en tête de liste. Sauf qu'il y a eu le 11 septembre après, vous voyez. Donc, tout ça a mélangé les pistes. Aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles... Cette préoccupation est devenue beaucoup plus prégnante. La première, c'est que, en effet, la Chine a continué de se développer considérablement par rapport à cette période. Et la deuxième, c'est que, depuis un peu plus de 10 ans maintenant, la Chine est dirigée par un dur, qui est Xi Jinping, bien entendu, et que, jusqu'à son prédécesseur Hu Jintao inclus, la Chine faisait encore des grâces, si je puis dire, ou des clins d'œil aux Occidentaux. Bon. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce que les Chinois qui le savaient, d'ailleurs, ce sont des gens extrêmement compétents qui dirigent le pays, ils savaient parfaitement que quand on fait une croissance économique extrêmement rapide, il y a un moment où viennent les grandes difficultés pour toutes sortes de raisons, sociologique, économique, sociologique, politique, tout ce qu'on voudra. Quand vous commencez à avoir 300 millions sur un pays à l'époque d'un milliard 400 millions qui ressemble à ce qu'on appellerait une classe moyenne, la composition du pays évolue, etc., etc. Bon. Or, monsieur le président Xi Jinping, aujourd'hui, il dit explicitement, ouvertement, qu'il entend être au minimum l'alter ego des États-Unis. Alors, évidemment, tout ça est assez déplaisant pour les Américains.
Et pour poursuivre sur la guerre en Ukraine, plus précisément son issue, ce qu'on trouve dans ce rapport, c'est que vous dites que l'issue de la guerre se jouera à Washington après les élections, ces élections de 2024.
Oui, dans mon cas, si vous voulez, j'ai dit ça, ce qui ne m'a pas valu une grande popularité, mais j'assumais mes responsabilités, j'ai dit ça dès le premier mois de la guerre en 2022. Bon. Alors, si les États-Unis en ont vraiment assez, pensent qu'il est temps d'en finir, ce que dit Trump explicitement, et encore une fois, je crois que les démocrates ne sont pas forcément entièrement contre cette vision, mais ils ne le disent pas aussi crûment. Et à ce moment-là, ça veut dire que dans les mois prochains, ou peut-être au bout d'un an, etc., le moment sera venu pour arrêter cette guerre. Alors, d'ailleurs, les Ukrainiens sont dans une situation qui est extrêmement difficile, notamment sur le plan humain. Pour les Russes, la question se présente en termes tout à fait différents pour de nombreuses raisons. Mais la question humaine est aujourd'hui gravissime pour les Ukrainiens. Et au point de vue des armements, etc., là aussi, derrière la façade, les Américains et les Européens, encore une fois, eux aussi, qui sont un petit peu hypocrites dans ce domaine, vous voyez bien qu'ils renâclent en dehors des aspects économiques à livrer des armements qui risqueraient de toucher la Russie, etc. Donc, il est assez vraisemblable qu'arrivera un moment où il y aura une sorte de cessez-le-feu. Et je pense que le scénario le plus vraisemblable, alors attendez-moi bien, quand je dis le plus vraisemblable, je ne dis pas certain.
Bien sûr.
Dans ces domaines, on n'est jamais certain. Bon, il peut toujours y avoir des rebondissements, des choses imprévues. Mais l'hypothèse, le scénario le plus vraisemblable, c'est celui qu'on appelle le scénario coréen. Le scénario coréen, c'est que nous vivons aujourd'hui encore, plus de 70 ans après, sur une situation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui est un armistice. Il n'y a jamais eu de traité de paix, et jamais eu... Donc la situation est gelée, si vous voulez, depuis 70 ans et plus, mais n'a jamais donné, n'est pas prêt d'ailleurs de donner un lieu à une véritable paix structurée. Voilà. Donc nous risquons d'avoir une situation de ce genre, ça veut dire que les combats cesseraient, les Russes occuperaient et renforceraient leur position dans ce qu'ils occupent, c'est-à-dire la Crimée, et le Donbass plus élargi que ce n'était le cas avant le début de la guerre. Mais les Occidentaux ne reconnaîtraient pas cette situation. Donc elle serait gelée. Nous aurions une espèce de nouvelle situation de guerre froide qui pourrait durer un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'un certain moment commence des négociations plus larges qui viseraient à rebâtir ce qu'on appelle un système de sécurité européen. Mais tout ça peut s'étaler sur des années.
Alors, un mot sur l'Europe. L'Europe dans tout ça, parce que ça fait des années que les Européens sont angoissés que les États-Unis se désintéressent d'eux. Vous aviez déclaré il y a quelques années au sujet de Kamala Harris. Kamala Harris, représentante de l'Amérique du XXIe siècle, qui a largement perdu ses racines européennes et sa proximité culturelle avec le vieux continent. Cette distanciation France-Europe-Amérique, elle est inéluctable.
C'est aussi une question, c'est évidemment une question de génération, mais vous voyez, la génération comme la mienne, par exemple, qui a été extrêmement mêlée à l'importance de la relation euro-américaine, la relation transatlantique, ma génération, c'est aussi celle de Biden. Et Biden, qui s'est toujours intéressé d'ailleurs à la politique étrangère, réellement, Biden, je crois qu'on peut dire, pour faire court, qu'il est le dernier représentant aux États-Unis de ces générations qui ont été attachées un peu plus que d'une manière purement réaliste, mais un peu plus sentimentalement, si vous voulez, ou émotionnellement, à la relation transatlantique. Alors, dans le cas de Kamala Harris, culturellement, elle a un peu le tempérament des immigrés américains qui viennent justement de ce fameux Sud global, si vous voulez. Donc c'est une autre manière de penser. Mais ça n'est pas seulement vrai de Kamala Harris, c'est vrai aussi de tous les gens qui arrivent aujourd'hui aux responsabilités. Si vous prenez aussi par exemple Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État des affaires étrangères de Biden, il parle français absolument couramment parce qu'il a vécu en France. Même Blinken, tout attaché à la France qu'il soit, depuis qu'il est devenu secrétaire d'État, il n'a presque jamais mis les pieds, très peu, mis les pieds en France, vous voyez. Donc oui, il va y avoir un changement considérable.
Il me semble que c'est Laurence Nardon, qui est l'une des chercheuses qui travaille à l'IFRI, qui disait que tout de même, malgré cette distanciation qui est inéluctable, il y a quand même un socle de valeurs communes qui perdurera entre les États-Unis et l'Europe, un lien transatlantique quand même qui restera.
C'est vrai, c'est ce que nous espérons tous. Bon, Laurence Nardon, qui est d'une génération déjà après, elle dit quelque chose qui correspond aussi à ce qu'elle souhaite profondément, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a encore des gens, même de cette génération-là, qui ont un certain sentiment de co-appartenance, si je puis dire. Mais je pense que dans la vie politique, il est très important d'oser toujours envisager à l'avance les situations désagréables. Mmh. C'est mieux que l'inverse. Donc je crois tout de même, tout en comprenant très très bien ce que Laurence ou d'autres disent là-dessus, et tout en le souhaitant, encore une fois, mais je pense qu'il y a une distanciation qui est tout à fait inévitable. Moi, je vois même, il y a beaucoup de gens de ma propre génération, y compris de ma propre famille, qui sont devenus américains. Néanmoins, à force d'être devenus américains, bien sûr, il y a un certain attachement, etc., mais ils sont d'abord américain. Donc, il faut être très attentif à ces vrais changements.
Alors, j'ose pas parler de la France, mais je vais le faire quand même. Vous avez participé en 1976 à la création de la French American Foundation, qui travaille à renforcer les liens entre les deux nations, entre la France et les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore une relation privilégiée, une relation même ?
Alors, ça rejoint un peu la question précédente. Je crois que, pour prolonger ma réponse à votre question précédente, il y a toujours eu, et je crois tout de même que ça existe encore, une certaine sympathie pour la France qui est souvent relayée par une exaspération profonde à notre égard. L'un n'exclut pas l'autre, tout simplement parce que ça renvoie au récit d'origine sur la création des États-Unis, Lafayette, etc., etc. Bon, donc il y a ce mélange de sympathie et d'exaspération. Bon, le moment dans ma propre vie, si je puis dire, publique, le moment qui a été le plus intense à cet égard, c'est incontestablement 2003, lorsque la France, avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin, se sont opposés frontalement, verbalement d'ailleurs, parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Par ailleurs, à l'invasion de l'Irak et au renversement de Saddam Hussein, et là, il y a eu un comble de rejet français et en même temps de désillusion, etc. Puis finalement, ça s'est quand même plus ou moins raccommodé après. Maintenant, le fait que ces sentiments existent, que finalement les Français, les Américains, vous l'avez constaté sûrement si vous avez voyagé aux États-Unis, ils aiment bien voir les Français, ça les amuse. Maintenant, est-ce que tout ça se traduit dans les réalités politiques et les rapports réels de force, etc. ? Non.
Ça paraît anecdotique. C'est plus peut-être un attachement culturel.
C'est un attachement culturel, historique, voilà.
Philosophique, certaine... peut-être
c'est,
aussi.
C'est d'ailleurs... alors, philosophique, ça, c'est très intéressant parce que la France, il faut toujours se rappeler que la France et les États-Unis sont les deux seuls pays qui prétendent depuis toujours, toujours au sens historique du terme, c'est-à-dire partager au fond l'esprit de la Révolution, c'est-à-dire d'être le phare universel, de prétendre montrer le chemin au reste du monde. Maintenant, dans ce rapport-là, la voix de la France, hélas, ne cesse de diminuer.
Alors, quelques questions de fin, Thierry de Montbrial. Je vous propose de faire un saut dans le temps. En 2028, est-ce qu'on peut se projeter dans la situation politique internationale aux États-Unis où elle reste totalement imprévisible ?
C'est très difficile, mais je peux vous dire ce que je pense depuis longtemps sur ce genre de questions. C'est que nous devons, et là je dis un « nous », qui correspond à l'Occident identifié à l'idéologie démocratique, je pense que nous devons renoncer à ce côté de propagation permanente de l'idéologie démocratique, pour dire les choses autrement, de fonder nos discours sur la politique étrangère, sur l'idée de propager la démocratie. Nous devons chercher à être le plus possible exemplaire nous-mêmes, comme je vous le disais précédemment, mais nous devons admettre l'hétérogénéité du monde. C'est-à-dire, nous devons admettre que des pays qui ont des formes de gouvernement tout à fait différentes que nous, que nous désapprouvons, qui ont des valeurs que nous, fondamentalement, nous n'aimons pas, eh bien, nous devons admettre que ce n'est pas nos oignons. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous en occuper en permanence et que si nous voulons continuer d'échanger avec eux, notamment sur le plan économique, eh bien, il faut reconnaître que le monde continuera longtemps d'être hétérogène. C'est pas forcément naturel pour nous autres, les pays occidentaux, mais c'est essentiel si nous voulons, un, conserver une certaine forme de multilatéralisme et conserver au moins certains bénéfices de la mondialisation, c'est-à-dire si nous voulons garder une certaine ouverture sur la partie la plus large possible du monde, et deux, plus solennellement, je vous dis, si nous voulons éviter les guerres. Parce que si nous continuons sur ces pentes-là, je pense que nous allons effectivement vers une multiplication des guerres. Et pire que ça, je crains vraiment pour l'avenir de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne a de multiples failles profonde que nous ne voulons pas voir et qui pourrait, si nous n'y prenons garde et si nous n'y portons remède, conduire dans les décennies qui viennent, ce ne sera pas l'affaire du jour au lendemain, à une véritable décomposition de l'Union européenne. Et ça, ce serait extrêmement grave pour nous, mais je pense aussi pour l'ensemble de la planète.
Et vous approfondissez et développez ce pan-là autour de l'Union européenne dans cette revue Ramsès.
Je le développe dans ce que j'écris, dans mes perspectives de ce numéro-là de Ramsès, mais en fait dans les précédentes éditions également.
Également. Voilà. Merci beaucoup Thierry de Montbriel.
Merci à vous.
Rendez-vous donc le 5 novembre prochain pour suivre cette élection. Et je rappelle qu'on peut se procurer ce rapport Ramsès en ligne, on peut le commander ? Comment
on le trouve à peu près partout, hein,
dans les librairies.
Oui, il est très diffusé. Oui.
Eh bien, nous le recommandons si vous voulez en savoir plus sur l'état du monde. Et c'est aux éditions d'Uno. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Canal Académie.